Vous écoutez, on lit pour vous.
Une nouvelle technologie pour mieux évaluer les blessures de la moelle épinière chez les femmes et les personnes âgées. Un texte de Marie-Hélène Beauséjour, Éric Vagnac et Yvan Petit, paru le 17 janvier 2026 dans La Conversation. Lors d'accidents ou de chutes, les blessures au niveau de la colonne vertébrale sont fréquentes, notamment chez les personnes âgées plus vulnérables. Les lésions traumatiques de la moelle épinière peuvent nuire considérablement à la qualité de vie des personnes touchées et engendrer des conséquences importantes sur le plan sociétal et économique. Au Canada, les soins aux victimes de traumatismes de la moelle épinière impliquant des conséquences sur le plan neurologique coûtent entre 1,47 million et 3,03 millions par personne. Or, les modèles numériques actuellement utilisés pour évaluer ces blessures ne sont pas adaptés aux caractéristiques des personnes âgées ou des femmes. Les modèles de ces groupes cibles sont généralement de simples mises à l'échelle réalisées à partir de modèles masculins qui ne permettent pas une compréhension approfondie des mécanismes derrière les traumatismes. De plus, ces données proviennent surtout du milieu sportif et de l'armée. Elles sont donc basées surtout sur des hommes jeunes et en bonne santé. Il y a un grand besoin d'en savoir davantage sur les femmes et les personnes âgées. Afin de mieux comprendre ces traumatismes et la manière de les prévenir, notre équipe de recherche à l'ETS élabore des modèles numériques davantage adaptés aux corps plus vulnérables. Créer des modèles adaptés. Pour y arriver, nous nous appuyons sur la modélisation par éléments finis. MEF, c'est-à-dire sur des modèles numériques qui sont en fait des copies virtuelles ou jumeaux numériques de différents éléments du squelette ou des organes. L'accès à des corps humains étant plus difficile, cette méthode a l'avantage de reproduire les mécanismes de façon très fidèle tout en facilitant les calculs. Nous nous intéressons précisément à identifier la partie de l'os qui va briser en tentant de déterminer dans quelles circonstances, avec quelle force et à quelle vitesse. Nous nous penchons tout particulièrement sur les ostéophytes spinaux. Ces excroissances situées au niveau des articulations sont notamment présentes chez les personnes âgées atteintes d'arthrose. À l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, où se trouve notre laboratoire, nous avons justement remarqué que beaucoup de victimes de traumatismes sont des personnes âgées qui ont fait une chute. Ces accidents, parfois en apparence banales, peuvent entraîner des troubles neurologiques. L'arthrose, donc les ostéophytes, peut avoir un impact sur le type et la localisation d'une blessure après un accident. Actuellement, la science ne peut pas encore définir si ces déformations de la colonne vertébrale sont plutôt bénéfiques ou néfastes. Nous cherchons à identifier la composition des tissus de ces déformations, puis à réaliser des tests mécaniques afin de les intégrer au modèle numérique. D'autres facteurs qui influencent le type de traumatisme doivent aussi être pris en compte, comme la posture et la vitesse ou la trajectoire au moment de l'accident, mais aussi la densité osseuse ainsi que la musculature. Le disque intervertébral d'un jeune homme et d'une personne âgée ne réagit pas de la même façon, par exemple, ce qui rend cette dernière plus à risque d'avoir un accident. Nous essayons donc de reproduire le modèle le plus fidèle à la personne, entre autres en utilisant l'intelligence artificielle pour créer des modèles personnalisés. Une autre de nos approches est la création d'un catalogue de géométries typiques, soit 28 géométries ici. Cette stratégie est exploitable à la fois pour aider à la compréhension des traumatismes et pour concevoir des prothèses adaptées à chaque individu, vers une sécurité plus inclusive. Nos travaux sont utiles à la conception de meilleurs équipements de protection, notamment dans les voitures. Là encore, la plupart des études en matière de sécurité des femmes dans l'industrie de l'automobile sont basées sur la morphologie des hommes. Nos systèmes de sécurité sont actuellement conçus pour une personne en parfaite santé. Pourtant, quand on construit un pont, nous établissons un certain critère de sécurité pour s'assurer qu'il ne s'effondre jamais. De la même manière, il faudrait d'abord penser à la personne la plus vulnérable qui conduira la voiture. Lors d'un accident de la route, les femmes ont de 47 % à 71 % plus de risques de subir des blessures pour un même accident. Cette donnée s'explique par une dégénérescence musculaire plus rapide avec la ménopause et une flexibilité plus grande à l'origine du fameux coup du lapin, une entorse cervicale. Le choix des matériaux et la conception de l'appui-tête, par exemple, pourraient ainsi être faits en fonction de morphologies plus variées afin d'amortir le choc de manière personnalisée. Pour plusieurs équipements de protection, comme les protecteurs cervicaux, la relation entre la morphologie de la personne et les dimensions de l'équipement a un impact sur la sécurité, mais ceci n'est pas toujours pris en compte. À terme, nous espérons que nos travaux permettront aussi de concevoir des outils et des traitements chirurgicaux plus adaptés aux femmes et aux personnes âgées. Les implications du programme de recherche sur lequel notre équipe de recherche travaille sont donc très étendues. Elles pourront contribuer à l'amélioration des stratégies de soins. C'était une nouvelle technologie pour mieux évaluer les blessures de la moelle épinière chez les femmes et les personnes âgées. Un texte de Marie-Hélène Beauséjour, Éric Vagnac et Yvan Petit, paru le 17 janvier 2026 dans La Conversation.
Itinérance au féminin, de Parfaite Battante. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir. Ton voisin qui vit dehors, c'est quand même ton voisin, dit un graffiti qui touche Annie droit au cœur. Ta voisine aussi, pourrait ajouter Annie et la joyeuse bande des Parfaites. Un collectif de femmes ayant vécu dans la rue qui, depuis 2015, sensibilise le public à la réalité de l'itinérance au féminin. Moi, des fois, j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de vivre en tant qu'itinérante, me dit Annie. Aux passants qui détournent le regard, elle a envie de dire « Arrêtez de tourner la tête quand vous voyez des personnes en situation d'itinérance. Peut-être dire bonjour, peut-être sourire, peut-être offrir une cigarette, offrir un café. Ça peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Le simple fait de se sentir humain dans le regard de l'autre, ça change tout », rappelle-t-elle. J'ai eu la chance de rencontrer cette semaine Annie, Sylvie, Chantal et Lily. Ce sont quatre femmes du collectif des Parfaites. Ce fabuleux comité est né d'un projet de recherche participative de la regrettée professeure de l'Université de Montréal, Céline Bello, en collaboration avec sa collègue Yacinthe Rivard. L'idée de départ était de rendre visibles des expériences d'itinérance au féminin, souvent invisibles. Pour y arriver, les chercheuses ont donné une voix à des femmes qui, fortes de leur expérience de vie et de survie, possède une expertise qu'aucun diplôme universitaire ne permet d'accoter. Annie a entendu parler de ce projet à la rue des Femmes, l'organisme qu'elle fréquentait lorsqu'elle était sans abri. Au début, la Montréalaise, qui a eu une vie marquée par la violence conjugale et la toxicomanie, y a vu une simple façon de gagner un peu d'argent. Après, je me suis rendu compte qu'on écoutait vraiment ce que j'avais à dire. J'avais l'impression que ça avait un impact sur les gens autour de moi. On reconnaissait ma voix. Sylvie, qui est sortie de la rue il y a 30 ans et a vécu des problèmes de consommation assez « all-dressed », pour reprendre ses mots, renchérit. On me donnait l'opportunité d'aller dans ma voie, tout en me donnant une voix. Ensemble, on a fait des miracles. À titre de co-chercheuse, les Parfaites ont fait entendre leur histoire dans plusieurs colloques et rencontres. Elles ont participé à l'ouvrage « Penser l'itinérance au féminin », presse de l'Université du Québec. En 2022, avec le soutien de Céline Bello, qui avait déplacé des montagnes pour réaliser ce projet ambitieux, elles se sont rendues en Belgique pour un congrès réunissant des professionnels de l'intervention sociale de la francophonie. Elles y ont présenté un jeu de type serpent et échelle, créé afin d'illustrer les obstacles dans leur parcours. Un parcours où l'on croise beaucoup de serpents et trop peu d'échelles. Il y a quelques années, lorsque les Parfaites ont présenté leur outil de sensibilisation à la ville de Montréal, elles ont ému aux larmes ceux qui se sont prêtés au jeu. Comptent-elles le présenter à l'équipe de la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferrada? Rien n'est prévu encore, mais l'idée leur plaît. Ce serait cool, avis aux intéressés. Ce que veulent les Parfaites, c'est que l'émotion soit suivie d'action. C'est avec cet objectif en tête qu'elles ont participé aux travaux de l'Office de consultation publique de Montréal sur l'itinérance et la cohabitation sociale. Dans le rapport dévoilé l'été dernier, leurs voix sont citées. On y retrouve notamment des bribes de l'histoire de Chantal qui me raconte comment, à 50 ans, sa vie a basculé. Quelques jours avant son anniversaire, elle s'est retrouvée dans un centre d'hébergement pour femmes. De sa vie d'avant, il ne lui restait qu'un petit sac à dos. « Et mes yeux pour pleurer », ajoute-t-elle. « Parce qu'après 8 ans sur une liste pour une demande de HLM, je n'étais pas prioritaire. J'étais dans la rue, mais pas prioritaire. » Les parfaites ont tenu à dire en consultation à quel point, en l'absence de ressources suffisantes réservées aux femmes en situation d'itinérance, elles s'exposent à de multiples dangers. D'où l'urgence d'augmenter le nombre de lieux sécurisés pour les femmes et de mieux les accompagner. Lily ne comprend pas pourquoi on ne transforme pas davantage d'églises désertées en refuge. Les églises calvaires, elles servent à quoi? Il n'y a plus personne qui va à la messe. Préoccupée par le sentiment d'insécurité des femmes dans la rue, Annie souhaiterait qu'on leur offre gratuitement des cours d'autodéfense pour affronter la violence physique, mais surtout l'emprise psychologique qui commence bien avant les coups. Lily le dit souvent, on se fait violer, on se fait tuer, c'est terrible, mais c'est la vérité. De tels cours seraient tout aussi utiles pour les femmes vulnérables, prises dans l'étau de la violence conjugale, ajoute Chantal. Il y a des femmes qui ne sont pas dans la rue, mais qui restent avec un conjoint parce qu'elles ne veulent justement pas se retrouver dans la rue. Annie fonde beaucoup d'espoir en Soraya Martinez-Ferrada, qui fait de la lutte contre l'itinérance une priorité. Elle est sensible aux personnes qui habitent la rue, j'ai hâte de voir. Moi, je suis une optimiste indécrottable. Mais si elle sent que les revendications des parfaites ont été bien accueillies par la ville, Lily est plus sceptique. J'ai l'impression que ça va aller sur une tablette. Elle avoue avoir été déçue d'entendre la mairesse dire à Tout le monde en parle qu'il y aura toujours de l'itinérance, comme si c'était une fatalité. Ça m'a jetée à terre. En revanche, elle aime bien son approche en matière de campement, les encadrer en collaboration avec des organismes communautaires plutôt que de les démanteler sans pouvoir offrir d'autres solutions, en espérant qu'elles fassent de quoi. Quoi qu'il en soit, si rien ne bouge, les parfaites et leurs alliés n'entendent pas baisser les bras. Avec la réalisatrice Anne-Céline Genevoix, qui prépare un documentaire dont elles sont les héroïnes, elles ont travaillé à un projet théâtral où elles imaginent leur propre gouvernement. Au printemps, elles se rendront à l'Assemblée nationale pour la première fois, à l'invitation de la députée solidaire Manon Massé, qui tient à faire résonner leur voix dans la maison du peuple. Peut-être que ça va faire boucher les choses, peut-être que non, dit Lily. Mais en tout cas, j'ai toujours de l'espoir au bout de la ligne. Parfaite est l'acronyme de Père aidante, de la rue à la recherche, au féminin, aide, témoignage et sensibilisation. La situation n'est pas propre à Montréal. L'Office de participation publique de Longueuil faisait le même constat mercredi. C'était « Itinérance au féminin » de Parfaite battante, un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir.
Existe-t-il des alcools moins dommageables? Un texte de Catherine Enfield, paru le 16 octobre 2025 dans la presse. La consommation d'alcool est responsable de 1 décès sur 20 dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une partie de ces morts découle d'accidents et de blessures, mais la majorité, de maladies. Digestives, cardiovasculaires, cancers. Le risque de cancer, du sein et du côlon en particulier, augmente même à de faibles niveaux de consommation. Bref, l'alcool n'est pas sans conséquences, et on peut se demander si certains types d'alcool sont moins dommageables que d'autres. D'un point de vue fondamental, physiologique, l'éthanol, c'est de l'éthanol, répond d'emblée le Dr Stéphane Perron, médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Qu'il provienne de la vodka, du vin rouge, du vin blanc ou de la bière, l'éthanol va avoir exactement les mêmes effets physiologiques. Lorsqu'on ingère de l'alcool, l'organisme le transforme en acétaldéhyde, une substance toxique. L'acétaldéhyde est par la suite converti en un autre produit qui, lui, peut être utilisé pour l'énergie, explique le docteur Perron. Les enzymes humains peuvent métaboliser l'acétaldéhyde ne sont pas aussi présents dans le tube digestif. C'est probablement pour cela que les effets de l'éthanol se font autant sentir dans le tube digestif, indique-t-il. La majorité des cancers liés à l'alcool, rappelle-t-il, touchent le système digestif. Bouche, gorge, larynx, œsophage, foie et colorectal. Intensité. Le risque d'avoir un cancer lié à l'alcool dépend de la quantité totale consommée dans sa vie, mais aussi de l'intensité de cette consommation et de la concentration d'alcool dans le sang, explique le chercheur Tim Stockwell, scientifique à l'Institut canadien de recherche sur l'usage de substances à l'Université de Victoria. C'est un thème florissant dans la recherche sur l'alcool. Les épisodes de consommation excessive, binge drinking en anglais, présentent un risque particulier. Normalement, le corps élimine rapidement certaines substances, comme l'acétaldéhyde, mais il ne peut le faire qu'à une certaine vitesse, explique le professeur Tim Stockwell. Si nous buvons vite, tout le système se bloque. Plus la fréquence de consommation est élevée et plus l'alcoolémie grimpe, plus les effets toxiques et cancérigènes sur l'organisme seront prononcés, résume-t-il. Il est donc moins dommageable de consommer des boissons moins concentrées en alcool, de les boire tranquillement et idéalement sur un estomac plein, dit-il. Et le vin rouge? Existe-t-il une fenêtre de sécurité pour l'alcool? Soit un niveau de consommation qui ne pose aucun risque pour la santé? Et le vin rouge, n'est-il pas associé à une diminution du risque d'infarctus? Ces questions, en apparence simples, font l'objet d'un vigoureux et passionnant débat dans la communauté scientifique. Dans les dernières décennies, plusieurs études épidémiologiques ont effectivement révélé que les gens qui boivent à l'occasion courent moins de risques de subir un infarctus du myocarde et même de mourir prématurément que ceux qui ne boivent pas du tout. Le vin rouge en particulier a souvent été associé à un vieillissement en santé. Les effets anti-inflammatoires, antioxydants et vasodilatateurs des polyphénols favoriserait la santé des artères. Certains scientifiques, dont l'équipe de prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal, considèrent qu'il existe une fenêtre de sécurité pour l'alcool, c'est-à-dire un niveau de consommation où les bienfaits pour le cœur surpassent les risques de cancer. On parle d'environ un verre par jour pour les femmes et un à deux pour les hommes dans un contexte continu durant la semaine. Le professeur Tim Stockwell s'inscrit dans le clan des sceptiques. Il fait partie des experts consultés par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, CCDUS, un organisme national. En 2023, le CCDUS a demandé à Santé Canada de rendre plus restrictives ses directives de consommation d'alcool à faible risque. Selon ses calculs épidémiologiques, le risque est faible à 2 verres ou moins par semaine, modéré à 3 à 6 verres par semaine, risque accru de cancer, et de plus en plus élevé au-delà de 7 verres par semaine, cancer, maladie du cœur, AVC. Sur le site Internet de Santé Canada, ce sont toujours les anciennes directives de 2011 qui sont en vigueur, maximum 10 verres par semaine pour les femmes et 15 pour les hommes. Ces directives découlaient aussi des travaux du CCDUS et du professeur Tim Stockwell. Je pensais jadis qu'il y avait des bienfaits, mais la preuve m'a fait changer d'idée, dit-il. Selon sa lecture, il n'existe pas de niveau sûr. La preuve des bienfaits de l'alcool pour le cœur repose beaucoup sur des études observationnelles. Les scientifiques observent des populations sans intervenir, leur font remplir des questionnaires sur leur consommation et regardent comment elles évoluent dans le temps. Ce qui pose problème dans plusieurs de ces études, selon le chercheur Tim Stockwell, ce sont les différences fondamentales entre les groupes que l'on compare. Dans la population générale, les abstinents à vie ont plus de handicaps, de plus faibles revenus et de nombreux autres facteurs de risque, explique-t-il. L'autre groupe de personnes qui continuent à boire à 60, 70, 80 ans, pour leur part, sont sélectionnées. Elles sont suffisamment en forme pour continuer à boire. Mode de vie. Directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal, le cardiologue Philippe Lavoie-Lallier convient que les abus d'alcool sont clairement mauvais pour la santé, tant physique que psychologique. À ce propos, dit-il, tout le monde est d'accord. Mais je pense qu'il est aussi infantilisant de ne pas parler du bénéfice cardiovasculaire à petite dose clairement rapporté dans la vaste majorité des études, presque de façon consensuelle, estime le docteur Lallier. Le cardiologue ne recommanderait jamais à des gens de commencer à boire pour améliorer leur santé. C'est aussi la position de l'American Heart Association. En revanche, s'ils boivent déjà, dit le docteur Lallier, je vais leur conseiller de boire légèrement ou modérément, d'essayer de migrer vers le vin rouge et d'en faire un moment de relaxation et de détente. Cette consommation modérée d'alcool devrait aussi être intégrée à un mode de vie sain, avec une alimentation méditerranéenne riche en végétaux, de l'activité physique régulière et sans tabagisme, indique le docteur Lallier, selon qui il faut aussi tenir compte du risque individuel. Le cardiologue trouve irresponsable le fait d'éliminer du discours la notion de bénéfice à petite dose de l'alcool. Ce genre de message sert, selon lui, à prévenir les abus dans la population. On propose un message et une position un peu plus subtile, conclut-il. Le docteur Stéphane Perron de l'INSPQ souligne pour sa part qu'il est très difficile de faire de bonnes études sur l'alcool et qualifie de très rigoureux le travail du CCDUS. Des bénéfices pour le cœur à petite dose? Probablement pas, estime le docteur Perron. Et dès que les doses augmentent un petit peu, certainement pas. Si c'est juste pour la santé, le moins, c'est le mieux, conclut-il. C'était « Existe-t-il des alcools moins dommageables? » un texte de Catherine Enfield, paru le 16 octobre 2025 dans La Presse.
Les dons en action gagnent en popularité. Un texte de Julie Chaumont, paru le 13 novembre 2025 dans La Presse. Au cours des quatre dernières années, Centraide du Grand Montréal a vu une augmentation du nombre de dons en action d'environ 26 %. Il faut dire que ce type de don comporte d'intéressants avantages, tant pour la personne qui le fait que pour l'organisme qui le reçoit. Entretien avec Raphaël Desrues, directeur principal, grand donateur et dons individuels chez Centraide du Grand Montréal. Qu'est-ce exactement que le don en action? Les dons en action, c'est un don de bienfaisance comme n'importe quel autre don. La seule différence est que ce qu'on va donner à l'organisme, ce sont des titres, des actions, des obligations ou des fonds communs de placement. Les trois peuvent être admissibles. Ce sont les actions en elles-mêmes qu'on donne, pas les revenus de la vente d'actions. Comment faire pour donner des actions? En général, l'organisme va transmettre un formulaire de don à la personne qui souhaite lui donner des actions. Une fois ce formulaire rempli, le donateur va le renvoyer à l'organisme et va par la suite contacter son courtier ou son conseiller financier pour donner l'ordre de transférer les actions à l'organisme. La transaction va ensuite se faire de courtier à courtier. Aujourd'hui et de plus en plus, il existe des comptes de courtage individuels, Wealth Simple, Disnat, etc. Donc, on a la possibilité de faire un don en action comme ça, mais dans l'immense majorité des cas, c'est de courtier à courtier. Un élément quand même important à souligner, à la réception des actions par l'organisme de bienfaisance, c'est la valeur de réception des actions qui va déterminer le montant du reçu fiscal émis au donateur. Donc là, il peut y avoir un décalage par rapport à la promesse qui a été faite par le donateur, car avec la volatilité des marchés, si les actions rentrent 2 jours plus tard dans notre compte de courtage, il se peut qu'elles soient un peu plus hautes ou un peu plus basses que la valeur unitaire de l'action. De toute façon, le reçu est remis à la valeur à laquelle on a reçu les actions. Que font les organismes avec leurs actions? Chez Centraide, une fois qu'on a reçu les actions, on les revend. Il n'y a pas d'obligation légale de revendre les actions immédiatement, mais l'immense majorité des organismes de bienfaisance ont dans leur politique d'acceptation des dons des règles vis-à-vis de la gestion de la réception d'actions. À Centraide, on les revend immédiatement pour 2 raisons. La première, c'est que les marchés sont volatiles, donc il y a un risque à garder des actions qui pourraient perdre de la valeur. Et la 2e raison, c'est que l'argent, on en a besoin maintenant. On a besoin de financer nos projets maintenant, de soutenir les organismes maintenant. Y a-t-il des avantages au fait de faire un don en action plutôt qu'en argent? Oui, il faut savoir que le don en action est une des formes de dons les plus avantageuses fiscalement. Comme toutes les autres formes de dons, à la réception des actions et en fonction de la valeur au jour de la réception des actions, on va remettre un reçu fiscal. Et ça, on le fait de la même façon que pour un don par chèque, par carte de crédit ou n'importe quelle autre forme de don. La différence avec le don en action, c'est que le donateur qui nous envoie des actions va être exonéré du gain en capital pour les actions. Si le donateur était amené à vendre les actions avant de nous envoyer l'argent, il sera imposé sur le gain en capital à 50 % de la plus-value. En transférant les actions directement, ça évite de payer l'impôt sur le gain en capital, donc ça fait faire une économie supplémentaire. Y a-t-il un montant minimal à respecter pour faire un don en actions? Non, pas nécessairement. Toute personne qui a investi dans un portefeuille de titres peut transmettre des actions à un organisme de charité. Maintenant, on ne peut pas nier que ça s'adresse à des personnes ayant la capacité financière d'avoir un portefeuille de titres qui ne sont pas enregistrés. C'est sûr que c'est quand même limitant pour un certain nombre de personnes. C'était « Les dons en actions gagnent en popularité ». Un texte de Julie Chaumeau, paru le 13 novembre 2025 dans la presse. On est faire ses devoirs. C'était « Le nouveau visage du bénévolat ». Un texte de Julie Chaumeau, paru le 13 novembre 2025 dans la presse. Québec et Mathurin ne représentent pas une fin en soi, mais le signe d'un système alimentaire en mutation, plus près des citoyens, plus transparent et mieux adapté aux incertitudes du monde actuel. Faites-vous plaisir à l'approche des fêtes. L'achat local n'aura jamais été aussi cohérent économiquement et culturellement. C'était « Les 3 niveaux de l'achat local », un texte de Sylvain Charlebois, paru le 13 novembre 2025 dans la presse.